Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles épisode 3. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est vraiment révoltant, que de nombreuses femmes connaissent un jour ou l'autre au travail, les discriminations à leur retour de congé maternité. Alors imaginez vous accouchez, vous êtes avec votre bébé quelques semaines, quelques mois, vous vivez cette naissance comme beaucoup de monde, c'est-à-dire avec du bonheur bien sûr, mais aussi avec des doutes, de la fatigue et des angoisses, comme tout le monde on a dit. Et donc au bout de quelques temps, que ce soit votre choix ou non, vous voilà de retour au travail. Alors vous êtes contente, vous allez retrouver votre poste, vos collègues, tout ça, sauf que là, le matin de votre reprise...
J'ai été mise au placard. Le jour de ma reprise, on m'a dit de ne pas me mettre à mon bureau habituel, mais dans un autre bureau totalement isolé de mon service.
Placardiser une jeune maman, oui, ça se fait encore. Alors on peut se demander, comment se regarder dans une glace après avoir fait ça? Oui, qui sont ces gens qui assument se comporter comme ça? Oui, on peut s'offusquer autant qu'on veut, mais vous allez l'entendre, cette situation est malheureusement loin d'être un cas isolé. Autre fait qui peut arriver, qui peut paraître moins grave peut-être, mais qui n'est pas sans conséquence, le collègue indélicat, malveillant, le gros relou, quoi.
Il y a un collègue qui est venu me voir, qui m'a dit « Mais quoi, tu reviens direct après ton congé mat, tu vas laisser ton bébé si tôt chez une inconnue toute la journée, je sais pas comment tu fais. »
Mais de quoi je me mêle, mon grand? Alors dans ce podcast, on parlera aussi de la recherche d'emploi quand on est une jeune maman, où là aussi, c'est génial, certains recruteurs ne se cachent pas du tout pour discriminer.
Ils m'ont rappelé 3 heures plus tard pour me dire « Finalement, on donnera pas suite, votre bébé est un problème dans votre organisation pour nous. »
Oh oui, il y a encore beaucoup de boulot pour que le retour au travail se passe sereinement, dans la bienveillance et le meilleur des mondes. Voilà de quoi on parle aujourd'hui, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Benjamin Muller et je suis très heureux de vous présenter ce 3e épisode du podcast des maternelles. Aujourd'hui donc, les discriminations au travail dont sont victimes certaines jeunes mères, plus fréquentes qu'on pourrait le croire, mais vous savez quoi ? Tous ensemble, on va s'énerver, ça d'accord, en entendant certains témoignages, mais on va aussi se rassurer. Car oui, il existe quelque chose en France qui est prévu pour protéger les jeunes mamans, quelque chose auquel on ne pense pas toujours, alors que c'est pourtant bien pratique dans ce genre de situation. Ce quelque chose, ça s'appelle la loi. Bonjour Maître Julie Glicksmann.
Bonjour Benjamin.
Vous êtes avocate au barreau de Versailles, vous continuez de défendre régulièrement des femmes qui êtes victimes de discrimination à leur retour de congé maternité. Est-ce que d'ailleurs la loi parle de ces femmes-là ?
Oui, absolument. La loi fixe un cadre général qui peut être complété par des accords collectifs, accords de branche, accords d'entreprise. Il y a donc un cadre général qui prévoit la protection des femmes qui rentrent de congé maternité et notamment le fait qu'elles doivent retrouver leur emploi ou un emploi équivalent à leur poste avec une rémunération au moins égale. Ça, c'est le grand principe que toutes les femmes doivent pouvoir se prévaloir à leur retour de congé maternité. C'est interdit de mettre au placard une femme qui revient de congé maternité. Elle doit pouvoir retrouver son bureau ou un bureau correct. Et puis les missions qui étaient les siennes au moment du départ ou des missions équivalentes s'il y a eu une réorganisation qui n'est pas une chose forcément mauvaise. Mais les conditions de travail doivent être au moins équivalentes à celles qu'elles étaient avant le départ.
Donc ça, c'est ce que dit la loi. Évidemment, la loi n'est pas toujours respectée dans les entreprises. On a reçu beaucoup de messages, comme celui-ci que je vais vous faire écouter, message que m'a envoyé Émilie. Je précise que j'en ai reçu beaucoup des messages similaires. On passe celui d'Émilie qui sera une bonne porte-parole de beaucoup de jeunes mamans. Écoutez, Émilie.
Bonjour à tous, je m'appelle Émilie, j'ai 35 ans et je suis responsable de la communication et des relations presse dans une entreprise du sud de la France. Donc en février dernier, j'ai donné naissance à mon 2e petit garçon et j'ai repris le travail au mois de juin. J'ai été mise au placard. Le jour de ma reprise, on m'a dit de ne pas me mettre à mon bureau habituel, mais dans un autre bureau totalement isolé de mon service. Après, je travaille dans la com et le graphisme, donc j'ai besoin de certains logiciels et d'une certaine performance aussi dans mon PC. Mais dans ce nouveau bureau, donc, j'avais un ancien ordinateur sur lequel il m'était complètement impossible de travailler. Ouvrir un simple mail déjà était mission impossible. Voilà, déjà c'était la première sanction en fait, le changement de bureau et de poste. Ensuite, on m'a donné une nouvelle mission qui était totalement hors sujet dans mon domaine de compétences et on m'a clairement dit de ne plus faire mes tâches habituelles car la personne qui m'avait remplacée était très efficace. Donc là, ça a été la douche froide. Donc retour de congé maternité avec un bébé de 3 mois, un petit souci, je pense, encore dans les hormones. C'était quand même assez délicat à gérer. Donc, après, je me suis entretenue avec ma direction, qui m'a ensuite également aussi refusé catégoriquement de prendre mes congés d'été, sachant que j'avais un nombre incalculable encore de congés à prendre. Voilà, que des petites choses comme ça qui m'ont rendu la vie impossible. Donc ça a duré une bonne semaine.
Là, on peut parler d'un cas concret de mise au placard. Dans l'idéal, comment il faut réagir quand arrive ce genre de mésaventure ?
Alors, la première chose, lorsqu'on a le sentiment qu'on a été mis au placard ou qu'on est en train d'être mis au placard, parce que c'est parfois pas forcément dès le jour du retour, mais ça peut être quelque chose de progressif qui s'étale un petit peu dans le temps, la première chose à faire, c'est de demander à son employeur de pouvoir être reçu pour faire le point sur la situation, faire le point sur les missions, sur les conditions de travail et sur la façon dont l'employeur voit notre retour.
Faut pas hésiter à y aller cash, quoi, à dire, bon, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a un problème, rendez-vous et on en discute. Vous allez voir qu'Émilie, j'ai l'impression, et c'est une très bonne chose, qu'elle a de la poigne, qu'elle a de la personnalité, puisqu'elle a décidé de pas se laisser faire. Écoutez la suite de son récit.
Ça a duré une bonne semaine jusqu'à ce que je prenne mon courage à deux mains et que je demande un entretien en leur expliquant que c'était juste pas légal de faire ça et que quand on revenait d'un congé maternité, on se devait d'avoir un poste, de reprendre son poste ou tout de moins d'avoir un poste équivalent. Donc je pense que mes menaces ont effrayé ma direction et du coup j'ai repris mes fonctions habituelles. J'ai pas repris mon bureau, je suis toujours dans mon petit bureau isolé du reste de mon service. J'ai pas eu mes congés bien évidemment, bon ben ça à la rigueur c'est pas grave, mais voilà, enfin, je trouve qu'en 2019 c'est quand même assez inconcevable d'être mise au placard comme ça, parce que quand on embauche une femme âgée de 25, 30 ans, 35 ans, on se doute bien que si elle n'a pas d'enfant ou si elle en a qu'un, elle va en faire et que bah, cela n'enlève en rien ses compétences et sa façon de travailler. Surtout que, pour ma part, il a été au courant dès le début de ma grossesse, il n'y a pas eu de surprise. J'ai été joignable pendant mon congé maternité. Enfin, voilà, je pense que les mentalités doivent changer. Après, voilà, on ne refait pas malheureusement certaines personnes, mais c'est quand même triste d'en arriver là. Et je souhaite vraiment cela à personne.
On peut dire que Émilie a bien réagi, elle a décidé de ne pas se laisser faire. Après, il faut avoir de la personnalité pour oser faire ça, un retour qui plus est de congé maternité, qui peut être un moment où on est un peu fragilisé. Est-ce qu'elle a bien agi ?
Émilie, elle a très bien agi, elle a très bien réagi, elle a très bien senti la situation parce qu'elle dit qu'on l'avait sanctionnée pour être partie en congé maternité. Elle a tout à fait bien réagi, elle a sollicité un rendez-vous avec son employeur qui est évidemment la première chose à faire. Elle a demandé des explications, elle a bien tenu puisque finalement elle indique qu'elle a retrouvé son poste. Alors pas tout à fait dans les mêmes conditions, mais elle a quand même retrouvé son poste. Après, elle n'est peut-être pas allée assez loin parce que finalement elle dit que bon, les congés c'est pas grave, alors que si c'est grave et qu'elle aurait dû insister aussi sur ce point-là. Mais effectivement, elle a été très courageuse, mais c'est pas forcément évident.
On va écouter maintenant un autre témoignage d'une autre Émilie. Alors là, vous allez voir, c'est presque plus pernicieux, c'est presque plus fourbe, si l'on peut dire, puisqu'elle nous parle là, non pas de mise au placard, mais de réflexion de son responsable. Écoutez.
Bonjour, alors moi c'est Émilie, j'ai 27 ans et je suis la jeune et heureuse maman d'un petit garçon qui va maintenant avoir 5 mois. Alors j'ai repris le travail donc il y a maintenant 3 semaines. J'ai eu de la chance, entre guillemets, d'avoir des jolies petites réflexions indirectes de la part de mon responsable. En effet, je suis partie en tout 7 mois entre mon congé maternité et mes congés payés. Et à mon retour, donc, je me suis remis dans les dossiers que ma collègue et remplaçante a donc traité pendant mon absence. Cette collègue est devenue d'ailleurs une amie avec le temps et elle m'a informé que quand elle a eu mon responsable au téléphone, ce dernier lui a dit que j'étais complètement larguée par rapport au dossier. En même temps, j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal, ça fait 7 mois que je suis pas sur place, les dossiers qu'elle a traités, je ne les connais pas, donc forcément, quand on me pose des questions dessus, eh ben, je suis pas incollable. Voilà. Donc, je trouve que c'est une réflexion qui est un peu vexante aussi, parce que ça fait 7 mois que je suis pas là, donc forcément, je peux pas être irréprochable et qu'on m'a pas vraiment laissé le temps non plus de m'imprégner de tous ces dossiers. Donc c'est un peu compliqué et ça rend d'autant plus le retour au travail très compliqué parce que c'est déjà pas évident de laisser son enfant quand on a passé autant de temps avec lui tous les jours. Et en plus de savoir qu'au travail on nous voit comme ça, c'est un peu compliqué. Enfin, moi je l'ai vécu un peu mal quand même. D'autant plus que j'ai eu le droit à une deuxième réflexion, toujours indirecte. Hein. C'est-à-dire que mon responsable a appelé ma collègue et lui a demandé de m'envoyer faire une tâche que d'habitude on ne fait jamais. En fait c'est une tâche pour laquelle d'habitude on emploie des étudiants. Donc je me suis sentie un peu recalée, quoi, pas à ma place. Et bon, voilà, je sais pas trop comment le prendre en fait.
Maître Glicksman, on est toujours avec vous pour commenter ce témoignage qu'on vient d'entendre. Donc là, c'est tout récent, elle vient tout juste de reprendre le boulot. Émilie, j'imagine qu'elle a hâte d'avoir vos conseils. Là, elle est un peu humiliée par le responsable, mais est-ce que pour autant la loi protège les femmes de ces humiliations?
Alors, la loi protège les femmes des discriminations qui peuvent être faites dans le cadre soit de la grossesse, soit du retour du congé maternité. On n'a pas le droit de discriminer une salariée parce qu'elle est enceinte ou parce qu'elle a été en congé maternité ou même parce qu'elle est maman. Après, dans le cas d'Émilie, ce qui va être difficile, c'est la question de la preuve. Parce qu'il y a des réflexions, elle dit elle-même qu'elles sont indirectes, alors elles peuvent être parfois faites directement aux salariés sans vraiment que les choses soient réellement dites. Parfois, elles sont faites à d'autres salariés et les propos sont alors des propos qui sont rapportés. Et toute la question, parce que c'est illégal de discriminer une salariée, toute la question va être de est-ce qu'on arrive à apporter la preuve de cette discrimination et est-ce qu'on arrive à apporter la preuve que ça a une incidence sur notre travail, sur notre état de santé, dans l'hypothèse d'une procédure judiciaire. Donc c'est une question difficile de pouvoir apporter la preuve de ces situations.
Quand on parle de preuve, est-ce que des mails, par exemple, où il y aurait écrit « Écoutez, Émilie, vous êtes larguée depuis votre tour de congé mat », ça peut être une preuve? Faut garder les pièces comme ça si on sent qu'on est victime?
Il faut tout garder. Évidemment, les écrits sont des éléments qui restent donc très importants parce que venir dire « J'ai été discriminée, j'ai des réflexions qui sont dégradantes tous les jours », si elles sont chorales et que personne n'a été témoin de ces propos, c'est très compliqué. Donc les écrits, les attestations sont également des choses très importantes, avec la réserve que les salariés en poste sont assez frileux, et on le comprend évidemment, à attester de ce genre d'événement.
Et alors, il y a quand même quelque chose qui ressemble à une humiliation. Quand on lui donne le boulot qu'on va confier aux jeunes, aux étudiants, aux stagiaires, ça se plaide, j'imagine.
Là encore, il faudrait arriver à prouver qu'on a confié cette mission-là en raison de la situation de grossesse, de retour, de congé maternité, et que c'est une discrimination parce que l'employeur pourrait apporter la preuve que ça peut arriver, qu'il y a eu un besoin particulier et que c'est absolument pas lié à l'état de cette salariée, ni de grossesse ou de retour de congé maternité. Donc attention, parce que ça pourrait, mais c'est pas systématique.
Ce que je trouve terrible, moi, dans le message d'Émilie, c'est qu'elle se justifie. Elle dit « Mais attendez, moi j'étais joignable pendant mon congé mat, je répondais à mes mails, mes appels », alors qu'en théorie, elle n'est pas du tout obligée de faire ça.
Elle n'est absolument pas du tout obligée d'être joignable pendant son congé maternité. Et c'est effectivement un sentiment qu'on retrouve régulièrement chez des salariés qui culpabilisent un petit peu de ne pas être présentes, de s'absenter parfois longtemps et qui sont un petit peu prises entre deux feux, entre le besoin de vivre leur vie de famille, leur vie de maman, et puis ce sentiment de dire « oui, mais du coup, je ne suis pas joignable, je ne suis pas à la hauteur, est-ce que j'en fais assez ?» Oui, elles en font assez, oui, on doit les laisser tranquilles pendant cette période-là et on ne peut pas leur reprocher, donc il ne faut pas qu'elles culpabilisent.
Cette fois, c'est Carole qui habite dans les Bouches-du-Rhône, qui nous a envoyé ce message. Alors elle parle pas de discrimination au boulot, elle parle d'un emploi à côté duquel elle est passée à cause justement de sa nouvelle maternité. Écoutez Carole.
En 2017, j'ai postulé dans une entreprise pour un poste équivalent à celui que j'occupais à l'époque, mais nous n'avions pas pu continuer car les projets de l'entreprise avaient évolué. Un an plus tard, ils sont revenus me chercher en me disant que j'étais la personne qu'il leur fallait. Pour la forme, on refait un entretien dans lequel j'explique que, entre-temps, je suis devenue maman, que j'ai un conjoint en déplacement une grande partie de la semaine et que 3 jours par semaine, je dois déposer ma fille et la récupérer à la crèche. Forcément, ça implique des horaires particuliers, mais que je sais m'organiser. Ils m'ont rappelé 3 heures plus tard pour me dire « Finalement, on donnera pas suite, votre bébé est un problème dans votre organisation pour nous. » Ce jour-là, j'ai compris que malgré toutes les qualifications et expériences possibles sur mon CV, les recruteurs ne voient que le fait que je sois maman.
Maître Glicksman, toujours ensemble pour analyser tous ces cas de discrimination. Carole, on lui dit « votre bébé, c'est un problème pour nous ». Alors, si on voit le verre à moitié plein, on se dit « c'est bien, ils assument ces gens-là ». Mais en revanche, c'est absolument dégueulasse, ça c'est le premier commentaire qu'on peut faire. Mais est-ce que juridiquement, elle peut faire quelque chose?
C'est dégueulasse et c'est illégal. On ne peut pas refuser d'embaucher une personne parce qu'elle est enceinte, parce qu'elle a un enfant. Et ça, c'est quelque chose que l'employeur ne peut pas faire. Encore une fois, on a un problème de preuve dans ce dossier où on peut avoir un problème. C'est-à-dire que il faut arriver à expliquer les raisons pour lesquelles finalement l'emploi n'a pas pu être occupé. Est-ce qu'on arrive à prouver ou pas que le bébé pose problème? Ça va être toute la question dans ce dossier.
Vous en avez souvent des cas comme ça? Parce que j'imagine aussi que prendre un avocat, ça peut coûter cher, ça peut prendre du temps. Ce sont des femmes qui reviennent de congé maternité, donc qui n'ont pas forcément ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie pour faire tout ça. C'est ça aussi qui est désespérant, moi, je trouve, pour les femmes. C'est que ça demande une énergie à un moment de la vie où on n'a pas forcément le temps.
Oui, il y a malheureusement beaucoup de dossiers. Il y a aussi beaucoup de femmes qui ont des questions, effectivement, qui ne se lancent pas forcément dans une procédure judiciaire, pour toutes les raisons que vous évoquez. Mais il y a évidemment beaucoup trop de dossiers. J'ai beaucoup trop de témoignages de clientes qui me disent que les employeurs voient encore les congés maternité ou les annonces de grossesse comme un mauvais coup, comme un coup bas. On m'a parlé de trahison, qui sont des mots extrêmement forts, et voilà, c'est absolument abject. Mais effectivement, moi, ce sont les récents témoignages dont on a pu me faire part.
C'est-à-dire, bonjour patron, je suis enceinte, t'es en train de me trahir.
Oui, tu me trahis parce que tu me mets dans l'embarras, parce que comment je vais faire pour gérer. C'est des situations qui sont fréquentes. Et parfois, ce sont les arrêts maladie, tout simplement, qui peuvent être considérés comme des trahisons. Les congés maternité, de par la durée, le sont aussi.
Question à 1000 euros, c'est souvent des hommes qui font ce genre de réflexion ou non, les femmes aussi sont capables de ces gentillesses ?
Les femmes aussi sont capables de ces gentillesses, c'est bon, j'ai un peu tout vu.
Des femmes qui sont mères, pas forcément mères, il y a tout ?
Il y a tout, malheureusement, il y a tout. Mais il y a évidemment beaucoup d'hommes qui sont capables de ce genre de comportement, mais c'est moi, voilà, par retour d'expérience, pas uniquement. J'ai aussi des femmes qui sont mères, mais qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, compartimentent, j'imagine, les choses.
On peut être odieux, il y a de la parité sur le sujet, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai reçu un message d'une femme qui ne voulait pas qu'on reconnaisse sa voix, mais en tout cas, elle m'a envoyé ceci, donc je vais vous le lire. Elle dit « Je suis dans ma boîte depuis 12 ans. Quand j'ai demandé mon 80%, on m'a dit devant témoin que ma demande choquait et qu'elle n'était pas compatible avec une carrière de manager, qu'il ne fallait pas que je m'attende à avoir des objectifs à 80%, qu'il fallait que j'aie bien conscience que toute évolution possible se fermait à moi. Alors à mon retour, je n'avais plus de bureau, plus d'ordi, plus de chaise et 12 ans de ma vie professionnelle étaient dans un vieux carton tout abîmé. Motif de cela, selon mon manager, pas le temps de s'occuper de mon retour. De plus, au quotidien, j'ai des remarques sur mes heures de départ car je dois partir à 17h. Planification de réunion pendant mes jours off, et une phrase sur cinq commence par « Ah oui, mais c'est vrai, toi tu n'es pas là les mercredis, trois petits points, etc. » Là, j'ai l'impression qu'il y a tout. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des preuves déjà, si c'est par mail.
Oui, là, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. La première chose, c'est qu'on ne peut pas refuser un 80% à une femme qui rentre de congé maternité. On ne peut évidemment pas la mettre dans un placard et lui rendre un carton avec toutes ses affaires. Donc ça, évidemment, elle va pouvoir expliquer un petit peu la situation. Donc là encore, demander à l'employeur de faire le point, puis peut-être aller l'image d'Émilie, dire « Moi, je sais que ça ne doit pas se passer comme ça. Je vous demande de me remettre dans une situation comme elle l'était avant mon départ. » Et effectivement, de faire le point, parce qu'il y a des situations dans lesquelles ça ne s'améliore pas, malheureusement.
Et dans les entreprises relativement importantes, il y a les syndicats. C'est peut-être le moment de se tourner vers eux qui peuvent aider ces femmes-là.
Oui, je pense que dans tous les cas, la bonne chose, c'est d'en parler. Donc, on peut se tourner vers les syndicats, on peut se tourner vers les délégués du personnel, les CSE, on peut se tourner vers un avocat. Je crois qu'il faut en parler, il ne faut pas hésiter à faire part de son mal-être et des difficultés qu'on rencontre pour essayer de trouver une solution rapide, parce que c'est des situations qui ne sont jamais bonnes quand elles s'ancrent dans la durée.
Dernier témoignage, alors celui-là, c'est presque encore plus fourbe, c'est celui du collègue aux dents longues. Aux dents très longues, le collègue.
À la fin de ma grossesse, juste avant de partir en congé maternité, il y a un collègue qui est venu me voir et qui m'a dit « Mais quoi, tu reviens direct après ton congé mat, tu vas laisser ton bébé si tôt chez une inconnue toute la journée, je sais pas comment tu fais. » Et pourtant, j'ai quand même eu la chance en tant que salarié de reprendre seulement 4 mois de mon bébé. Mais il faut préciser que ce collègue était en remplacement, donc je pense qu'il était dans l'attente que son contrat se prolonge. Voilà, voilà, pas très classe de sa part.
Donc là, Maître Glicksman, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Juliette pour clouer le bec à ce collègue très ambitieux ?
Là, c'est une petite particularité, c'est effectivement que la remarque, la brimade, ne vient pas de l'employeur ou du supérieur hiérarchique, mais d'un collègue. On peut imaginer peut-être un collègue de même niveau hiérarchique. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter, il faut en parler à l'employeur si on le vit mal, même si c'est une fois. On n'a pas forcément besoin d'attendre que les choses se répètent et qu'elles nous rendent très malheureux. L'employeur, qui est garant de la santé physique et mentale de ses salariés, doit pouvoir prendre des mesures, des sanctions si besoin. En tout cas, prendre des mesures pour éviter que ces situations existent.
S'il y avait une chose à retenir de tous ces échanges, de tous ces témoignages, en gros, c'est il faut parler.
Absolument, il faut en parler parce que ça peut débloquer des situations, en parler parce qu'on peut se faire aider si on n'arrive pas à débloquer la situation soi-même, et en parler pour que ça arrête de se produire parce que c'est absolument inacceptable.
Est-ce que si on n'a pas forcément les moyens, on peut trouver des moyens justement d'être en contact avec des avocats sans que ça nous coûte très cher ?
Oui, il y a des systèmes comme l'aide juridictionnelle qui sont des systèmes qui permettent à des gens qui n'ont pas beaucoup de ressources d'avoir des avocats et de se lancer dans des procédures judiciaires si besoin. Donc il y a évidemment des systèmes, tout le monde doit pouvoir accéder à la justice.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, c'était le troisième épisode du podcast des maternelles, un podcast réalisé par Alexandre Ferreira pour France Télévisions et 2P2L sous la houlette de Jérôme Caza et Olivier Macqueron. Merci à Irina Pascal et Nicolas Frémont pour les réseaux sociaux. Merci à Agathe Le Caron et à Isabelle Tepper pour leurs très bons conseils. Merci bien sûr à toutes celles qui ont accepté de se raconter et à Maître Julie Glicksman pour l'analyse, pour le débriefing. Comme on dit. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à celui-ci sur Apple Podcasts, sur Castbox ou encore sur Spotify. Et si en plus vous mettez une petite note ou un commentaire, ça nous fera très plaisir, ce serait vachement sympa. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, on se retrouve sur Instagram si vous voulez me suggérer des thèmes de podcast. Je commence à en recevoir pas mal, ça fait plaisir. Allez, salut tout le monde, à bientôt. Et puis, une dernière chose, on me dit que ce sont surtout des femmes qui écoutent ce podcast. Alors mesdames, vous savez quoi, n'hésitez pas à en parler. L'air de rien, comme ça, à vos hommes, hein, genre subtilement, qu'ils jettent une oreille. Ça pourrait les intéresser aussi, on ne sait jamais. Allez, à bientôt, j'espère.